Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 5 mars 2026, en direct des studios de choc.ca à l'UQAM. Il est 18h31 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct sur le site de la station. Donc, balado des Apatrides Anonymes, on vous parle à chaque 2 semaines des enjeux d'immigration, de racisme, de frontières, de droits humains, autochtones,
Donc, racisme.
Oui, je l'ai dit, Marie-Ève. Donc, Marie-Ève est avec moi. Bonsoir,
allô?
Marie-Ève. Mathieu est à l'appareil.
Ben
est
oui,
au micro.
Il est là.
Il est là devant toi. Simon, bonsoir.
C'est moi qui est à l'appareil. Salut.
Salut. Simon à la console pour l'instant. Mais mes deux complices vont venir présenter différents sujets au courant de l'émission. Il y aura évidemment l'agenda en fin d'émission. Il y aura aussi les actualités françaises, les actualités sur l'immigration Québec-Canada, un petit bloc sur le rapport de Human Rights Watch, les actualités méditerranéennes et celles de la Manche aussi. Et on parlera aussi un petit peu tantôt dans quelques secondes du conflit sans fin israélo-palestinien, en plus de plusieurs pièces musicales. Donc, nous sommes avec vous pour 70 minutes environ et on commence tout de suite avec quelques notes de musique. Donc, pendant que l'Iran brûle et que le Liban rebrûle encore une fois, ben il y a des choses qui continuent à avoir pas d'allure sur le front israélo-palestinien un peu partout dans le monde avec différentes répercussions. Je vais commencer avec une de nos meilleures, Francesca Albanese. Donc, plus d'une centaine de personnalités de la culture, parmi lesquelles Annie Ernaux et Suzanne Sarandon, ont apporté leur soutien à la rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens, Madame Albanese, dont la France et l'Allemagne ont réclamé la démission en raison de récents propos sur Israël. L'intéressée a dénoncé des accusations mensongères et une manipulation de ses propos. La polémique n'a cessé d'enfler après une lettre adressée le 10 février par un groupe de députés du camp macroniste au ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, pour dénoncer des propos antisémites et demander que la France œuvre pour qu'elle soit déchue de tout mandat onusien. Selon eux, cet expert a désigné dans une intervention publique Israël comme un ennemi commun de l'humanité. Est-ce que la représentante a effectivement qualifié l'État hébreu d'ennemi commun de l'humanité? La principale intéressée a bien employé ce terme lors d'une conférence le 7 février, mais sans viser Israël. Nous la citons, nous qui ne contrôlons pas des normes capitaux financiers, d'algorithmes ni d'armes, mais voyons maintenant que nous, en tant qu'humanité, avons un ennemi commun, a-t-elle déclaré. L'ennemi commun de l'humanité est le système qui a permis le génocide en Palestine, y compris le capital financier qui le finance, les algorithmes qui le dissimulent et les armes qui le rendent possible, a-t-elle de nouveau précisé. Elle réclame désormais un mot de clarification et d'excuses de la part de la France, qui a finalement retiré sa demande de démission. Sinon, ben une bonne nouvelle quand même, des documents réglementaires montrent que la Banque Scotia a vendu le reste de ses parts dans le fabricant israélien d'équipements militaires Elbit Systems. La banque a été critiquée pour cet investissement, notamment lors des manifestations très médiatisées organisées lors de la remise du prix Giller, qu'elle parrainait, oui, tout à fait, en raison du rôle joué par Elbit dans la fourniture d'équipements militaires à Gaza. La Banque Scotia avait précédemment déclaré qu'elle ne détenait pas directement les actions et qu'elle ne pouvait pas s'immiscer dans les décisions d'investissement indépendantes de ses gestionnaires de portefeuille. Le dernier rapport déposé par le fameux gestionnaire d'actifs qui est chapeauté par la Banque Scotia ne mentionne pas Elbit parmi ses participations, alors qu'en novembre, il indiquait détenir environ 165 000 actions d'une valeur de 84 millions de dollars, et en août dernier, on parlait de 700 000 actions d'une valeur de 315 millions. Mais là, plus rien depuis janvier.
Pouf, ça a disparu.
Le fabricant d'armes a vu le cours de son action grimper en flèche, dépassant les 400 $ US l'année dernière et atteignant plus de 700 $ l'action en janvier, malgré tout ça. En résumé, donc, c'est une importante victoire pour cette campagne qui durait depuis plus de 2 ans,
ouais,
un peu partout au Canada. En terminant, ben, un article de Pivot qui s'appelle « Une firme de génie conseil québécois quitte Israël en catimini ou presque ». WSP, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec est le principal actionnaire, participait à des projets ferroviaires en Israël qui contribuent à la colonisation des territoires palestiniens occupés. La multinationale de génie conseil affirme avoir récemment vendu ses opérations là-bas, mais Pivot a accédé à plusieurs informations qui laisse planer le doute quant à son départ du pays. Elle a comme revendu ses parties à une compagnie qu'elle a créée en Israël, mais ils ont encore droit de regard, donc évidemment. Et cette compagnie-là, ben, elle travaillait sur un train qui allait de Jérusalem vers Jérusalem-Est vers les colonies israéliennes en territoire occupé et aussi à travers les deux côtés de Jérusalem, Est et Ouest. Donc, c'était vraiment... Il était sur le nom, sur la liste des compagnies de l'ONU qui participent au, à l'apartheid. Donc, un article de Pivot du 24 février dernier.
Donc, tu peux-tu rappeler le titre?
Oui, je peux rappeler le titre. C'est une firme de génie conseil québécoise quitte Israël en catimini ou presque. Trois petits points, ou presque. Donc, Marie-Ève, tu vas nous parler... Ah ben, je ne l'ai pas nommé dans l'introduction, c'est vrai. Tu allais nous parler d'islamophobie au Québec et au Canada.
Eh oui, c'est que, vous allez voir, je vais parler d'une autre déchue à l'image un peu de Francesca Albanese. Là,
qui, elle, ressent pas, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais au début du mois de février, il y a le ministère de l'Identité et de la Culture canadienne qui a annoncé qu'il éliminait le poste de représentante spéciale du Canada dans la lutte contre l'islamophobie qui est occupée par Amira El-Gawabi et celui aussi, l'autre poste qui, lui, est vacant d'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et de la lutte contre l'antisémitisme. Les deux postes vont être remplacés par un comité consultatif dont les membres n'ont pas encore été nommés, puis on ne sait pas non plus si Amira El-Gawabi va en faire partie ou pas. Le ministre Mark Miller a eu beau préciser que l'abolition du poste de Mme El-Gawabi avait rien à voir avec la controverse que sa nomination avait créée en 2023 en raison de certaines de ses prises de position passées. Les réactionnaires fédéraux se sont vite agités, disons. Deux exemples, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette, un des mononcles en chef.
Mononcle qui arrive,
ouais, s'en est évidemment réjoui en s'attaquant non pas au poste, mais à la principale intéressée. Je le cite, « Madame El-Gawabi s'est prêtée à ce qui fait figure de propagande anti-Québec et anti-laïcité d'une façon très, très déplorable. » On sent le petit doigt réprobateur ici, là, tout au long de son mandat. Et il y a aussi le lieutenant politique des conservateurs au Québec, un autre grand esprit de notre temps, Pierre Paulus. Lui
Monsieur
qui...
Huss.
Oui, il est allé un peu plus large quand même sur X. Je le cite aussi, le poste woke qu'occupait Amira El-Gawabi n'aurait jamais dû exister. Son seul but est de diviser. Elle a insulté le Québec et les Québécois à plusieurs reprises.
Ouais.
Donc, le comité va avoir la mission de favoriser la cohésion sociale, de rassembler la population autour d'une identité commune, de lutter contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes.
Oh, bonne chance.
Je rappelle que l'islamophobie et l'antisémitisme sont des formes de racisme bien spécifiques qui nécessitent une attention particulière.
Ben oui.
D'ailleurs, il y a l'Association canadienne des libertés civiles qui rappelle que les communautés musulmanes et juives signalent une recrudescence des actes de harcèlement, menaces, actes de vandalisme et violence, et que dans ce contexte-là, ben, le besoin de leadership, de coordination et d'attention soutenue de la part du gouvernement pour lutter contre la haine n'a jamais été aussi grand, ce avec quoi je suis bien d'accord, surtout qu'avec le génocide de toujours en cours à Gaza et les attaques conjointes des États-Unis et d'Israël en Iran qui enflamme littéralement tout le Moyen-Orient, comme tu disais, Mathieu, ben l'antisémitisme et l'islamophobie risquent de s'exacerber dans les semaines et mois qui viennent. Pour revenir à Mme Amira El-Gawabi, la presque déchue, dans une entrevue à Radio-Canada International fin janvier, elle a salué l'intervention du gouvernement fédéral dans la contestation de la loi sur la laïcité de l'État qui va être là, entendue par la Cour suprême du 16 au 27 mars prochain.
La loi 21, hein, c'est bien
ça. La loi 21, voilà. Ce qui m'amène à parler du projet de loi 9 sur le renforcement de la laïcité au Québec. Parce que là, vous allez voir, c'est un peu malin. Il y a beaucoup de lois qui portent sur la laïcité là, qui s'en est.
C'est la troisième, je pense.
C'est ça.
Ouais.
Donc le loi 9 sur le renforcement de la laïcité au Québec, dont les consultations particulières et auditions publiques avaient lieu en février.
Ouais.
Et auquel la Ligue des droits et libertés et l'Observatoire pour la justice migrante ont participé, entre autres organisations. Donc, ces deux organisations-là rappellent justement l'importance de reconnaître le contexte d'islamophobie dans lequel s'inscrit ce projet de loi-là, qui, à leurs yeux, est encore un pas dans la mauvaise direction. Je cite l'Observatoire. Le PL9 s'inscrit dans une continuité plus large d'une construction politique et médiatique du problèmes musulmans au Québec.
Probablement de guillemets, t'as fait des guillemets.
Hein? Oui, j'ai fait des guillemets.
Ouais.
La Ligue s'oppose, entre autres, aux nouvelles dispositions qui visent à élargir l'interdiction du port de signes religieux à une série d'employés, alors que ces personnes-là subissent déjà depuis 2019 des violations de droits importantes. De son côté, l'Observatoire insiste le plus particulièrement sur le fait que le PL9 contribue à invisibiliser les femmes qui portent le hijab et à limiter leur accès à plusieurs espaces de la société, qui risque aussi d'amplifier des vulnérabilités structurelles existantes, surtout dans les métiers du soin et de l'éducation à la petite enfance, qui sont, on le sait, très majoritairement occupés par des femmes musulmanes qui portent le voile. Puis ben là, on l'a vu, la réalité du terrain est venue confirmer ces craintes et analyses-là semaine, hein? récemment.
Ouais.
Les centres de services scolaires puis les directions d'école qui doivent appliquer la nouvelle...
Ouais.
PL 94, qui est la loi renforçant la laïcité dans le réseau de l'éducation.
La deuxième, oui.
Ils ont déjà dû licencier ou mettre en absence forcée des dizaines d'employés qui portent un signe religieux. Au moins 500 autres personnes pourraient perdre leur emploi s'ils refusent de se plier à la loi. Puis c'est seulement pour la grande région de Montréal. Là. Et je rappelle que cette loi-là élargit l'interdiction du port de signes religieux à l'ensemble du personnel scolaire et non plus seulement aux enseignants. On parle par exemple d'éducatrices en service de garde, des surveillants, surveillantes, techniciennes en éducation spécialisée ou conseillers pédagogiques. Est-ce qu'il me reste un petit peu...
Tout à fait.
Oui. La loi 9 sur le renforcement de la laïcité au Québec, je reviens à la loi 9, là, qui avait les...
La deuxième.
La deuxième. affecte aussi les usagers et usagères des services de l'État, hein, pas juste les employés, parce qu'elle prévoit l'obligation d'avoir le visage découvert pour recevoir des services d'éducation, de formation ou de perfectionnement professionnel, puis ça inclut les stages, et pour accéder à tout autre service offert par des institutions publiques et leurs prestataires qui nécessitent une identification pour des raisons de sécurité. Puis en plus du visage, de l'obligation du visage découvert, cette obligation-là s'étend aux personnes qui se trouvent dans ces lieux-là, mais sans nécessairement recevoir de service. Par exemple, une femme qui va devoir se découvrir le visage juste pour aller chercher son enfant à la garderie ou dans un établissement d'enseignement privé, par exemple. Je termine donc avec les mots de Mariem Garnougui, qui est une éducatrice en service de garde scolaire qui a été licenciée parce qu'elle refusait justement de retirer son hijab là, dans la foulée de la loi du 94. Le gouvernement prétend vouloir libérer les femmes qui portent le voile et renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on nous exclut du marché du travail et qu'on freine notre autonomie financière.
Ça, c'est clair. Donc, loi 21, loi 94, loi 9.
C'est ça.
Et entre ça puis le PEC, ça laisse beaucoup de place aux immigrants hein, pour travailler dans les services publics. Hein,
ben
ça,
oui,
ça va être bon pour tout le monde, ça.
Ouais.
Je sais pas si je peux me permettre, mais j'entendais en entrevue Bernard Drainville, un autre des mononques préférés, puis il disait les femmes qui ont choisi de quitter leur emploi plutôt que de retirer leur signe religieux. Donc, tu sais, on inverse un petit peu
la responsabilité.
Exactement.
Oui, oui. Merci Marie-Ève. Moi, je vais faire un dernier petit micro avant qu'on aille à une pièce musicale ensuite. On change d'univers et de sujet. Je vous parle des pays africains s'inquiètent de voir leurs jeunes être attirés par la Russie sous de faux motifs. Avant le 24 février 2022, l'Ukraine était une destination de choix pour de nombreux jeunes Africains, moins cher et plus facile d'accès que nombre de ses voisins européens. Ce pays accueillait quelques dizaines de milliers d'étudiants venus d'Afrique sur les bancs d'université. Avec l'invasion à grande échelle de la Russie, beaucoup sont partis dans la précipitation, dénonçant parfois le traitement subi aux frontières, entre autres en Pologne. Depuis, ce sont pour de toutes autres raisons que certains jeunes Africains foulent le sol ukrainien. Au début de février, Charles Ojambo, Mutoka s'est présenté devant les caméras à Nairobi, capitale du Kenya. Dans ses mains, la photo de son fils mort en Ukraine où il combattait sous l'uniforme russe. Moscou semble de plus en plus intéressé à garnir ses rangs de soldats recrutés en Afrique. Les services secrets ukrainiens estiment qu'il serait plus de 1400 venus de 26 pays africains.
Okay.
En plus du Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont tous aussi préoccupés par l'enrôlement sous le drapeau russe de plusieurs de leurs ressortissants. Des récentes enquêtes ont dévoilé que des Nigérians sont recrutés sous de faux motifs, y compris des promesses d'emploi lucratifs, des occasions en matière d'éducation et des mesures migratoires incitatives. Selon plusieurs chercheurs, ça démontre que la Russie cherche par tous les moyens à renflouer les pertes sur le front, tout en évitant de faire une mobilisation générale en Russie, une conscription finalement. Des ressortissants d'autres pays comme le Népal se sont retrouvés aussi dans les rangs des forces russes.
Voyons,
non? Oui, tout à fait. Ouais. L'Afrique représente bien plus qu'un bassin de recrutement dans le contexte du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Kiev et Moscou tentent de s'y imposer pour obtenir des appuis diplomatiques aussi. La présence russe est importante sur le continent. Depuis l'époque soviétique. L'an dernier, l'agence de presse d'État Sputnik a inauguré son centre africain à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine. Mmh. En plus de l'appui de certains régimes à qui Moscou vient en appui directement militairement et économiquement, comme ceux du Burkina Faso et du Mali, la Russie peut compter sur la bienveillance diplomatique de nombreux gouvernements africains qui, contrairement à ceux de plusieurs pays européens, hésitent à dénoncer formellement la guerre. Les ministres ukrainiens et des Affaires étrangères qui se sont succédés depuis 2022 ont visité 16 pays africains. Pendant la même période, Kiev a inauguré ses ambassades dans 6 pays, dont le Rwanda, la RDC et la Mauritanie. Par contre, jusqu'à présent, les résultats sont très mitigés pour l'Ukraine. C'est la Russie qui a le devant, évidemment, dans les pays africains au niveau de l'appui diplomatique et économique.
OK, mais comment ils expliquent ça? En tout cas, c'est un peu étrange quand même. Fait que t'as Wagner, c'est fucké quand même, parce que t'as Wagner qui est très présent sur le continent africain, tu sais.
Mais il y a aussi beaucoup de diplomatie et beaucoup d'investissements russes, comme les Chinois peu. Et à l'époque de l'Union soviétique, l'Union soviétique appuyait la décolonisation, les pays pauvres. Donc, il y a un héritage que l'Ukraine n'a pas, évidemment. Donc, c'est un peu ça qui peut expliquer cela. Donc,
intéressant.
Donc, voilà, on va aller en musique avec une première pièce. C'est un groupe de Bristol, en Angleterre, qui existe depuis 1999, qui donne dans le post-hardcore et qui inclut un certain humour british. Allez voir leur vidéo, c'est quand même assez drôle. Il s'appelle donc McClussy, McLusky. La pièce s'appelle Way of the Exploding Dickhead, tirée de leur album de 2025, The World is Still Here and So Are We. C'est sur Ipecac Recording, qui est l'étiquette de disque de Mike Patton, qui existe depuis 25 ans. Les Melvins sont là-dessus, entre autres, donc beaucoup de rock. Et ils seront malheureusement juste à Toronto le 6 avril, ni à Vancouver, ni à Montréal. Donc, ça aurait été intéressant de les voir. C'est un groupe qui existe depuis longtemps, mais qui a arrêté longtemps et là, qui revient avec un album en 2025. Donc, McClussy aux Apatrides d'Anonymes.
Precisely to the value of nothing. The searches precisely to the value of no. Checks preferred, checks preferred, checks for sure. But pity their children still. They'll never know love like us. Checks preferred, checks preferred. Just prepared, just for sure. A picture tells a thousand words. But try and put them in, put them in. The surge is precisely, precisely to the value of nothing. The surge is precisely, precisely to the value of nothing. Your politicians will never, your politicians.
Le groupe McCluskey, donc groupe britannique, M-C-L-U-S-K-Y, voilà, une très belle nouveauté de 2025. Simon, on s'en va en Méditerranée.
Effectivement, où 2026 commence de manière vraiment très dramatique sur la mer, c'est entre autres dû à une tempête catastrophique, la tempête Harry qui a balayé la mer avec des pics particulièrement violents le long des côtes italiennes du 19 au 21 janvier. Les données croisées à la fois des gardes-côtes et des ONG font état de chiffres records pour un début d'année. Depuis 2014, l'année à partir de laquelle on comptabilise de telles données, c'est du jamais vu. Déjà 547 morts confirmées entre le 1er janvier et la mi-février, auxquelles il faut ajouter une estimation de plus d'un millier de disparitions si on se fout des départs d'embarcations qui ont été observés à partir de l'Afrique. Donc, on est vraiment dans un des pires scénarios catastrophes. Et par rapport aux dernières années, c'est plus du double de morts et disparitions pour la même période.
OK.
On pense que le bilan va s'alourdir, dans les prochaines semaines. L'OIM admet elle-même que son chiffre de 547 morts est sous-estimé, en plus du fait qu'on continue encore aujourd'hui à repêcher des corps qui sont à la dérive depuis la tempête qui a eu lieu il y a maintenant 6 semaines. Les recherches en mer pourraient s'avérer encore plus compliquées dans un avenir assez rapproché puisque le gouvernement italien a officiellement adopté, début février, un projet de loi qui vise à restreindre davantage l'accès à son territoire maritime aux ONG de sauvetage.
D'accord.
Encore un projet de loi qui est dénoncé par SOS Humanity, Sea-Watch, Mediterranean Saving Humans, Médecins sans frontières, et qui prévoit d'interdire pour une durée allant jusqu'à 6 mois l'accès aux eaux italiennes aux navires des ONG,
okay.
Qui, selon cette nouvelle loi, constituerait une menace pour la sécurité nationale. Donc, on utilise
toujours
la sécurité nationale un peu à n'importe quelle sauce. Les navires humanitaires qui forceront les blocus s'exposeront à des amendes pouvant maintenant atteindre 50 000 euros. Et en cas de violation répétée, les navires seront confisqués. La plupart des paramètres de cette nouvelle loi restent à être analysés, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'ensemble du territoire maritime italien n'est pas d'emblée interdit aux navires des ONG de sauvetage. Mais on donne au Conseil des ministres italiens le pouvoir de décréter unilatéralement des interdictions ponctuelles de navigation pour des raisons dites de sécurité nationale, comme je disais, qui ne sont pas clairement définies. Donc, quand est-ce qu'un navire de sauvetage commence à poser une menace à la sécurité nationale, j'ai aucune idée. Donc, on pourrait se retrouver subitement avec une directive ministérielle qui interdit dès le lendemain la navigation dans tel secteur où se trouvent même peut-être déjà des bateaux de sauvetage comme le Alan Kurdi ou le Sea-Watch en direction d'embarcations clandestines à la dérive. Donc, on les rendrait comme presque instantanément illégales.
À géométrie variable. Là,
ouais. Exactement. C'est donc un outil législatif qui est très dangereux, qui vient cimenter dans la loi italienne une série de décrets qui criminalisaient déjà une partie des activités des ONG de sauvetage depuis 2022 et qui seraient utilisés de façon arbitraire, c'est ce que la loi prévoit, pour ultimement permettre la saisie de leurs navires et les affaiblir financièrement, en plus de compliquer leurs opérations. Donc au final, ce qu'on redoute, c'est que le nombre de morts en Méditerranée augmente encore plus.
Ben oui, évidemment.
Et c'est pas tout. Le deuxième article du projet de loi adopté par le gouvernement italien prévoit la réouverture des centres de détention de migrants opérés par l'Italie en Albanie.
Ah non, pas encore.
On leur cherchait une... Ben, ils n'ont jamais été ni ouverts ni vraiment fermés.
Non, c'était juste
peu,
vide.
Ça flottait un peu comme... En tout cas, bref, on leur cherchait une vocation puisque, bon, il y a eu toutes sortes de contestations judiciaires qui avaient empêché qu'ils soient opérationnels, mais on entend relancer sous des termes légèrement différents cette collaboration avec le gouvernement albanais, qui porte sur, on le sait, l'externalisation des demandeurs d'asile. Les articles 3 et 4 du projet de loi qui vient d'être adopté concernent une simplification des procédures d'expulsion et des restrictions supplémentaires au regroupement familial.
Mm-hmm.
Donc, tout va bien en Italie.
Ben oui.
L'adoption de ce projet de loi survient à un drôle de moment alors qu'un tribunal sicilien vient de condamner l'État italien à verser 76 000 euros à l'ONG allemande Sea-Watch pour l'immobilisation pendant 5 mois de son navire de sauvetage, le Sea-Watch 3, en 2019, okay. dont le personnel avait décidé, après 2 semaines à tourner en rond en mer, avec des migrants secourus à bord, de braver l'interdiction d'accoster sur l'île de Lampedusa pour y déposer les migrants qui étaient à bord et dont certains avaient besoin de soins d'urgence.
Ben oui.
Mais maintenant qu'il y a un encadrement légal qui prévoit les saisies des navires de sauvetage, des jugements de ce genre-là à la faveur des ONG, ce sera probablement beaucoup plus difficile à obtenir.
Mais la loi risque d'être contestée aussi, mais ouais.
Oui, mais ouais. Tant qu'elle est là,
ouais,
c'est ça, les contestations, ça peut être très long aussi avant qu'on obtienne un jugement.
Ouais.
Pour le restant de mon segment sur la Méditerranée, je reviens sur l'année 2025, des chiffres sur les traversées vers l'Espagne, puisque l'ONG Caminando Fronteras vient de publier son rapport annuel. Des chercheurs se sont basés sur les témoignages recoupés regroupés des familles et des survivants. En plus des données officielles, ils englobent les décès et les disparitions. Caminando Fronteras dresse une liste des causes de ces décès et les premières positions de ce triste palmarès, ce sont les suivantes. Lenteur ou retard de mobilisation des moyens de recherche et de sauvetage, ou carrément refus de lancer une opération, même si la position d'une embarcation en détresse est connue. On dénonce aussi la mauvaise coordination entre les différents gouvernements concernés. Et évidemment, ben, des facteurs externes, il faut ajouter les mauvaises conditions météo, les signaux de détresse reçus trop tard et les très longues distances à parcourir, parfois pour rejoindre les migrants qui sont en danger. On aurait donc en 2025 exactement 1181 personnes mortes en Méditerranée en tentant de rejoindre clandestinement l'Espagne. Elles provenaient de 31 pays, parfois d'aussi loin que le Bangladesh, le Pakistan et le Yémen. Je rappelle que ces chiffres concernent seulement les personnes qui naviguaient en direction de l'Espagne et celles qui visaient, et non celles, pardon, qui visaient la Grèce ou l'Italie. Mm-hmm. On note aussi qu'une cinquantaine de bateaux sont disparus des radars avec tous leurs passagers en 2025.
Quand même, hein?
C'est quand même beaucoup, mais c'est sous-estimé aussi comme chiffre. Oui. L'itinéraire donc vers l'Espagne, qui est de loin le plus emprunté et le plus meurtrier, c'est celui qu'on appelle la route algérienne, qui part des côtes de l'Algérie, bien sûr, pour se rendre en Espagne continentale ou dans l'archipel espagnol des Baléares. On l'appelle aussi la route des Baléares, c'est la même chose, la route algérienne, la route des Baléares.
Okay.
Plus de 1000 personnes décédées sur cette route en 2025. C'est une route maritime qui est en forte expansion année après année, 27% plus empruntée en 2025 qu'en 2024.
Okay.
La deuxième route la plus fréquentée est celle du détroit de Gibraltar, qui est beaucoup plus courte, seulement 14 km versus des centaines dans le cas de la route algérienne, mais elle est considérée comme très périlleuse à cause de courants particulièrement violents, d'une très forte militarisation et du fait que certains migrants tentent cette traversée à la nage.
Okay.
139 personnes mortes entre le continent africain et le rocher de Gibraltar en 2025. Et on a une troisième route maritime beaucoup plus marginale, celle-là, généralement au départ du Maroc vers l'île espagnole d'Alboran, mais qui a quand même fait 5 victimes en 2025. Donc, rapport très intéressant, disponible en anglais sous le titre « Monitoring the Right to Life 2025 ». C'est dans le site caminandofronteras.org. Le rapport se penche aussi sur les traversées vers les îles Canaries dans l'Atlantique, qui sont encore plus meurtrières que celles de la Méditerranée. Une tendance qui devrait s'inverser dans les prochaines années, étant donné que tout l'argent envoyé par Madrid au gouvernement du Sénégal, de Gambie ou de Mauritanie pour empêcher les départs. Donc, le rapport mentionne aussi les 43 personnes qui sont décédées l'année dernière en essayant de rejoindre à pied ou à la nage les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Mmh.
Très intéressant, Simon. Beaucoup d'informations. Retour sur 2025 encore. Toujours des chiffres qui sortent en début d'année jusqu'au mois de mars. Fait que,
il va peut-être en avoir d'autres.
On va peut-être en parler encore de certains chiffres. Moi aussi, je parle d'un autre rapport, Simon, le rapport annuel de Human Rights Watch.
Okay.
Donc, l'ONG avertit que le président Donald Trump avait intensifié une spirale descendante en matière de droits de la personne, déjà sous pression de la part de la Russie et de la Chine. Bon, je vous apprends pas grand-chose hein, avec cette première phrase. Pour l'Organisation de la démocratie, a reculé au niveau de 1985, quand l'Union soviétique existait encore. Je cite un extrait. La Russie et la Chine sont moins libres aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il en va de même pour les États-Unis. Bon, je continue à citer. Avec la première année du deuxième mandat de Trump, l'histoire s'accélère dans le mauvais sens. Tous les acquis, les progrès qui ont été réalisés de haute lutte pendant les dernières décennies sont aujourd'hui menacés. Le rapport de 529 pages tranche avec celui sur les droits de la personne publié récemment par le Département de l'État américain qui a édulcoré les sections consacrées aux pays amis de Donald Trump, tels que le Salvador.
Ben oui.
Dans le rapport, il y a des sections spéciales sur des pays dont on vous parle souvent, Haïti, RDC et Tunisie. Une partie est assez intéressante. Elle s'intitule « Afrique de l'Ouest, Sahel, les juntes militaires poursuivent leur répression ». Je cite quelques phrases. « Les dirigeants du Sahel consolident leur emprise sur le pouvoir alors que les forces belligérantes attaquent les civils. Au Nigeria et au Sahel, les groupes armés islamistes ainsi que les forces gouvernementales et leurs alliés ont attaqué des civils et des infrastructures civiles à répétition. Dans le même temps, les jeunes du Sahel ont expulsé les organes régionaux et internationaux, dont les ONG, et affaibli les institutions chargées de la reddition de comptes en cas d'abus. » Donc, en conclusion, le rapport dit ceci. Dans ce monde devenu plus hostile, la société civile est plus importante que jamais. Elle est aussi de plus en plus en danger, en particulier dans un environnement où les financements se sont raréfiés. En 2025, Human Rights Watch a été désignée comme indésirable en Russie et interdite d'y travailler. Leurs partenaires en Égypte, à Hong Kong et en Inde sont hélas bien habitués à ces tactiques. Les restrictions aux activités de la société civile et aux manifestations sont devenues de plus en plus courante en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France. Et désormais, pour la première fois, les inquiétudes s'accroissent quant aux risques liés à une présence opérationnelle aux États-Unis, où l'Open Society Foundation, un important bailleur de fonds pour les ONG, a d'ores et déjà été menacé et où l'administration Trump prépare une liste de terroristes intérieurs sur la base de directives très, très larges qui pourraient être interprétées comme incluant le travail de nombreuses organisations progressistes, telles les ONG, les organisations de la société civile, etc., les syndicats, les groupes communautaires, tout ça.
Qu'on mettrait sur des listes d'entités terroristes.
De terroristes intérieurs.
Eh bien.
Homeland terrorists.
Mais quand même, un rapport de, tu disais, 500 quelques pages.
Ouais.
Mon Dieu, ça doit être presque aussi déprimant que notre émission de fin d'année.
Oui.
Comme condensé, là,
je suis pas sûr qu'il y ait un quiz à la fin, malheureusement.
Non. Puis il y a beaucoup de pays qui ont des sections spéciales, comme je disais, mais il y a aussi une analyse plus générale. Mais non, c'est intéressant. Ben, on connaît aussi Human Rights Watch, leur approche. Donc, voilà. Pour ce petit bloc d'informations, on va y voir avec quelques notes de musique et je reviens avec Simon. Donc, Simon, on va poursuivre avec ton deuxième sujet, c'est-à-dire sujet large, là. Il y a sûrement différents aspects. Les enjeux d'immigration Québec-Canada.
Oui, je parlerai pas de tout, évidemment, parce que ce serait trop large.
En deux semaines, il y a du stock, hein? Oui.
Je commence avec l'Alberta.
Vas-y.
Des actualités presque d'un océan à l'autre, là, puisque, bon, on va parler de Danielle Smith. Alberta-Québec, même combat. Parfois, la première ministre Smith veut réduire les seuils d'immigration pour, dit-elle, évidemment, sans aucune donnée ou étude, réduire la pression sur les finances publiques.
Et les services publics, bien sûr.
Elle mentionne les finances publiques, okay. Donc on présume que ça va ensemble. Donc, en bonne caquiste ou péquiste, Mme Smith blâme l'immigration pour les différentes crises, que ce soit les... Ah, ben oui, je m'étais mis sur elle, blâme ça pour la crise des services publics et le logement. T'avais raison. Il faudrait que je me relise avant. Le problème, c'est qu'à l'instar des autres provinces et territoires, excepté le Québec, l'Alberta n'a aucun contrôle sur l'immigration. C'est pourquoi, dans le cadre d'une dizaine de référendums prévus à l'automne 2026, elle en veut un qui portera sur l'octroi de nouveaux pouvoirs en immigration. Et il y en a quatre ou cinq autres questions qui portent indirectement sur l'immigration aussi.
Tout à fait, oui.
La question référendaire qui porte sur les pouvoirs en immigration, la question exacte sera la suivante. Êtes-vous d'accord pour que le gouvernement de l'Alberta renforce son contrôle sur l'immigration pour la ramener à des niveaux plus durables, privilégie une immigration économique et accorde aux Albertains la priorité sur les nouvelles possibilités d'emploi?
Ça fait beaucoup en une seule question, non?
Ben oui, puis c'est quand même un peu tendancieux.
Oui, c'est très biaisé, oui.
Puis le truc sur la priorité des Albertains sur les immigrants, les possibilités, donc, je ne sais pas, il me semble qu'il y a beaucoup de dérives possibles avec ça.
Puis les immigrants, c'est des Albertains aussi, là. Mais bon, c'est ça.
Ouais. Une autre question référendaire demandera aux Albertains s'ils souhaitent que seuls les citoyens et résidents permanents aient accès aux services publics gratuitement. Alors qu'il est démontré qu'en Alberta, et probablement ailleurs aussi, les résidents non permanents contribuent financièrement plus en proportion que les autres, étant donné qu'ils payent taxes et impôts et souvent ne bénéficient presque pas de services.
Oui, puis ils sont plus jeunes en général, oui.
Exactement.
Ouais.
Donc, plusieurs dérives possibles suite à ces référendums qui auront lieu le 26 octobre prochain. On va suivre ça.
Oui.
Pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, l'Alberta a accueilli 58 000 nouveaux résidents permanents auxquels on doit ajouter un phénomène qu'on connaît beaucoup moins au Québec, la migration interprovinciale.
Mm-hmm.
Donc, des citoyens ou résidents permanents des autres provinces qui viennent s'y établir et qui est au nombre de 18 000. Donc, on aurait un total de 76 000 nouveaux Albertains et Albertaines. Sachant que la population de l'Alberta, c'est à peine plus que la moitié que celle du Québec, on peut dire que l'Alberta, proportionnellement, reçoit beaucoup plus de monde que le Québec.
Mm-hmm.
On peut évidemment tempérer en disant que le Québec a reçu beaucoup de demandeurs d'asile dans les dernières années, mais en 2024-2025, on constate une baisse importante par rapport au pic de 2023. Donc, c'était juste pour situer un peu.
Oui.
Je mentionne le Québec, mais je reviens à l'Alberta pour une autre nouvelle qui concerne la couverture provinciale de soins de santé pour les travailleurs étrangers temporaires, couverture qui avait été coupée sans préavis en janvier dernier.
Ben oui, c'est vrai.
On a maintenant décidé de suspendre cette décision, de suspendre la coupure, finalement. C'est ce que les officiels du gouvernement ont affirmé. sans pour autant revenir aux prestations de soins telles qu'elles étaient avant janvier, alors que plusieurs travailleurs étrangers et personnels du système de santé ont constaté, sans même avoir reçu de mémo, que cette couverture avait été coupée, puisqu'on envoyait des requêtes de remboursement dans le système informatique et ça bloquait.
Ça bloquait.
Donc, ça a été ça le mémo, finalement.
Puis là, ils ont changé de mémo, puis ils sont revenus sur leur décision.
Bien, c'est pas très clair. On se retrouve un peu dans un flou administratif actuellement. L'annonce du gouvernement mentionnait seulement qu'on entrait dans un processus de révision sans indiquer de mesures temporaires ou un quelconque échéancier. Alors que l'hiver en Alberta, avec entre autres les stations de ski, c'est la saison pendant laquelle il y a le plus de travailleurs temporaires, plus encore que les saisons de récolte.
Marie-Ève?
Oui, je me demandais si... parce que là, tu sais, comme tu dis, c'est un flou, là. On est dans une période de flou, mais les personnes, justement, qui ont fait des demandes et qui ça a bloqué, est-ce que ça va devenir rétroactif? Est-ce que ça va redébloquer?
On sait rien.
On sait pas.
Bien, on présume qu'il y aura une forme de rétroactivité une fois que les paramètres de la nouvelle des mesures de transition vont être connus, mais on sait pas dans combien de temps, on sait pas. Donc,
ça va être combien d'argent qu'ils vont rembourser, etc.
Ça. Je suis même pas sûr que lors des 2-3 prochaines émissions, on va savoir exactement ce qui se passe. Donc, on y reviendra. Quand on le saura.
Parfait. Continue, Simon.
On quitte l'Alberta. Je parle maintenant d'un cas très particulier, celui de Jorge Vinicio Sosa Orantes, cet ex-militaire guatémaltèque qui va être déchu de sa citoyenneté canadienne suite à un jugement sur son implication dans le massacre de tout un village, 200 morts en 1982. C'est une procédure exceptionnelle, mais le juge a écrit qu'il avait obtenu sa citoyenneté sur la base de mensonges par rapport à sa participation dans ce qui est classé comme un crime contre l'humanité. Mm-hmm. Il sera donc déporté et interdit de territoire. Par contre, il y a Avocats sans frontières qui s'est dit satisfaite que le crime de l'individu soit légalement reconnu, mais en même temps déçu que cet ancien sous-lieutenant ne soit pas l'objet d'une poursuite au pénal où il aurait dû répondre de sa responsabilité criminelle plutôt que de simplement se faire révoquer administrativement son statut. Je cite Moussa Bienvenue Abba, directeur des affaires juridiques pour ASF Canada, qui juge que la preuve contre M. Sosa Orantes était abondante et accablante. Il dirigeait les opérations et ordonnait d'amener des villageois, y compris des bébés et de jeunes enfants, pour qu'ils soient massacrés à coups de masse et jetés dans un puits. Non seulement il a toléré les meurtres, mais il les a encouragés volontairement et... Donc, M. Bienvenue Abba nous rappelle aussi que le Canada, comme plusieurs pays depuis l'année 2000, selon une disposition du droit international, détient le pouvoir de juger des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu dans d'autres pays. Mais il déplore qu'on le fasse trop peu. Il y a eu seulement 2 cas en 26 ans. Les 2 cas étaient reliés au génocide rwandais. Ouais. Alors qu'en Allemagne et en France, on est autour de 70 cas respectivement. Donc, comme si le Canada refusait de se prévaloir de ce droit, alors que moralement, il devrait le faire pour mieux contribuer à la justice internationale.
Oui,
c'est pourquoi, d'ailleurs, l'association Plateforme canadienne des Guatémaltèques exilés par le terrorisme d'État a lancé une pétition pour qu'il soit poursuivi pour ses crimes et non simplement pour une fraude à l'immigration. La pétition, c'est un Google Doc pas très facile à trouver. Mm-hmm. On peut passer par le site du Comité pour les droits humains d'Amérique latine pour la signer, donc dans cdhal.org. On mettra le lien direct dans notre page FB. On va essayer de penser de le faire. Il y a aussi Avocats sans frontières qui a produit un rapport complet sur l'affaire. Le titre, c'est « L'affaire Sosa Orantes, une occasion ratée pour le Canada de lutter contre l'impunité des crimes internationaux ». Et on le trouve dans asfcanada.ca. Bref, pour l'instant, le bourreau serait simplement déporté si on le retrouve, puisqu'il est disparu dans la nature.
Ah, il n'était pas à son procès. OK, oui.
Bonne question.
Bonne question, oui.
Par contre, une dame qui n'a commis aucun crime, elle sera bel et bien déportée, et on s'en désole, c'est une histoire qui n'est pas reliée. Donc, c'est une jeune Guinéenne qui a accouché tout récemment. Son nom n'est pas rendu public pour protéger l'identité de l'enfant. Mmh. Elle a fui une violence bien démontrée par, entre autres, les nombreuses cicatrices qu'elle a sur le corps qui témoignent de blessures graves, de brûlures, de coups de fouet et même d'une excision. Elle a échappé à un mariage forcé avec son cousin, qui était aussi son principal agresseur. Elle est au Québec depuis 2022, mais comme ses documents d'identité comportaient des erreurs, les noms de ses parents n'étaient pas ceux de ses parents biologiques, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a simplement rejeté sa demande d'asile sans l'analyser. Elle fait maintenant l'objet d'un avis d'expulsion, sans pour autant qu'il y ait eu non plus d'évaluation des risques avant renvoi.
Okay.
Pour l'instant, elle croupit seule dans une cellule de la prison pour immigrants de Laval. Elle a été séparée de sa toute jeune fille qui a été confiée au papa, qui était étudiant temporaire au Québec, d'origine lui aussi guinéenne. On ne connaît pas son statut actuel, par contre. Elle serait donc bientôt déportée vers un pays où sa sécurité est fortement compromise et sans son bébé. Donc, c'est une histoire d'une grande tristesse. où l'Agence des services frontaliers du Canada fait preuve de bien peu d'humanité.
Et c'est ça. On parle d'une Guinéenne et qui risque d'être déportée bientôt. J'imagine que SSF est sur le coup un peu. Ouais.
Plusieurs associations. Il y a même un comité qui s'est créé pour ce cas particulier. Là.
Parfait.
Mais merci. On n'a pas le nom. Donc, difficile de référer les gens.
Il n'y a pas de problème. Mais il risque d'avoir des manifs s'il y a des développements.
Effectivement.
Donc, merci Simon pour ces enjeux en immigration Québec-Canada. Oui, Alberta, Québec, même Guatemala. On va y aller en musique avec le groupe Elle me tue, les avalés du silicone. Je vais attacher mes velcros de souliers. Donc, le duo Elle me tue, la pièce Les avalés du silicone, de leur quatrième album Anticipez vos souvenirs, sorti à la toute fin de 2025. Duo montréalais composé de Nunu Metal et Mingo l'Indien, pour ceux qui se rappellent de ce membre drummer des Georges Leningrad. Donc, ils donnent dans la poésie électro-rock. On les a vus, Marie-Ève et moi, en concert au Tavern Tourne à la soirée hommage à Lucien Francoeur pour quelques pièces.
C'était une excellente soirée.
Tout à fait. Et ce groupe, Elle me tue, duo Elle me tue, est en position 23 du palmarès local de Choc avec son album. Donc, on s'en va en France.
Il n'y a pas d'autres concerts prévus?
Non, j'ai regardé, il n'y en avait pas d'autres, malheureusement. On va du côté de la France et de l'Espagne pour une première bonne nouvelle. Le tribunal de Bayonne a relaxé 7 personnes poursuivies pour avoir aidé des migrants à entrer en France le 16 mars 2024. Ce jour-là, lors de la Corica, une course de 11 jours et 10 nuits en soutien à la langue basque, 36 exilés avaient pris place parmi les coureurs pour franchir la frontière entre Irun en Espagne et Hendaye en France.
Moi, j'aime bien ce genre de méthode.
Oui, ils ont eu des beaux dossards gratuits d'ailleurs pour pouvoir se fondre dans la foule. Cela démontre qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce dossier, a réagi Enot Aramendi, l'un des 7 prévenus, membre de l'association d'aide aux migrants aux exilés, Etorkinekin. C'est en basque. Donc, une vingtaine d'associations, collectifs, syndicats, mais aussi de figures politiques locales avaient revendiqué deux semaines après, lors d'une conférence de presse, la coordination de cette action, un acte selon eux de désobéissance civile. Pour rappel, l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier constitue un délit dans la loi française, s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, ou bien que l'aide est apportée dans un but exclusivement humanitaire, aucune poursuite ne peut être engagée. Malgré cela, le parquet avait toutefois ouvert une enquête et requis 1 000 euros d'amende pour les 7 prévenus, leur reprochant une action préparée et menée en bande organisée, puis diffusée publiquement.
En peloton organisé.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. En marathon organisé.
Une chance, c'était pas une course à relais?
Mais non. Entre 2020 et 2021, au Pays Basque, au moins 8 personnes sont mortes en tentant de franchir la frontière, dont 5 se sont noyées dans le fleuve frontière, la Bidasoa. Le 12 octobre 2021 aussi, 3 Algériens sont morts heurtés par un train à Cibourg. La plupart des arrivées irrégulières sont généralement recensées sur la côte atlantique, donc de ce côté-là. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été au début de l'année 2025 la première porte d'entrée en France pour les migrations irrégulières. Le flux de migrants entrant en Europe par l'Espagne a doublé entre 2022 et 2024 pour atteindre 60 000 entrées en 2024 quand même. Moins bonne nouvelle du côté de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire les Pyrénées orientales. Selon cette préfecture, 8 300 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés dans le département en 2025, soit 5% de plus qu'en 2024. 5 189 ont donc été réadmis vers l'Espagne en vertu d'un accord bilatéral entre les deux pays. Et 690 ont été non admis sur le sol français, donc éventuellement expulsés. Ouais. Les passages irréguliers augmentent depuis des années dans cette zone française qui borde la Méditerranée. Donc, on est du côté en bas de Toulouse, là, en bas de Perpignan. En 2021, déjà 13 000 personnes avaient été interpellées seulement à Cerbère, petite ville frontalière, selon la préfecture donc des Pyrénées orientales. Donc, voilà pour les nouvelles à la frontière franco-espagnole. Marie-Ève, donc, je te passe la parole. On s'en va un petit peu plus au nord, vers une autre frontière.
Oui, exact, c'est ça. Avant de faire le suivi là, sur l'accord un pour un entre la France et le Royaume-Uni, je vais vous présenter le bilan des traversées de la Manche pour l'année 2025, parce qu'on a encore des chiffres qui
sortent. Tout à fait, comme on disait tantôt,
ça,
oui.
Ça va faire un petit clin d'œil au bilan en de mer de Méditerranée.
Oui.
Donc, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, la Prémar, près de 50 000 personnes à bord de 795 embarcations différentes ont tenté de traverser la Manche. J'insiste sur le mot.
Oui.
Depuis la France vers l'Angleterre à bord de small boats, alors que près de 6 200 personnes migrantes ont été secourues en mer du côté français. C'est une tendance qui est à la hausse puisque en 2024, 45 200 personnes à bord de 830 embarcations avaient tenté la traversée de la Manche. Donc 45 200 versus 50 000. Donc, par contre, le nombre de personnes secourues, lui, est en légère baisse. En 2024, on était à 6 310 personnes versus 6 200, c'est pas une grosse différence, qui avaient été secourues par les autorités françaises. Enfin, la Prémar a comptabilisé 25 morts dans la Manche et 2 portées disparues. C'est beaucoup moins qu'en 2024, alors que 72 personnes avaient péri dans la Manche et 3 avaient été portées disparues. Ce que la Prémar souligne, c'est l'utilisation grandissante des ce qu'on appelle les taxi boats, un mode opératoire qu'on a vu apparaître en 2023 et qui consiste à mettre à l'eau des canaux à l'abri des regards, là, par exemple, depuis des cours d'eau à l'intérieur des terres pour justement échapper à la surveillance des forces de l'ordre sur les plages.
Ouais.
Sur les plages.
Sur la Manche, là. Ouais.
De départ, voilà. Donc ces canaux-là s'approchent ensuite par la mer. Des plages où les attendent les migrants qui, là, embarquent directement dans l'eau dans des conditions souvent chaotiques, on peut se l'imaginer,
ouais.
Avant de poursuivre leur route vers l'Angleterre. Ces taxi-boats-là, donc, ont représenté 45 % des embarcations en 2025 et environ 41 500 personnes migrantes seraient arrivées sur les côtes britanniques par la Manche, selon les chiffres du Home Office. C'est le deuxième nombre le plus élevé après le record des près de 45 800 arrivés enregistrés en 2022.
Okay.
Concernant l'accord dit un pour un,
oui,
qui prévoit littéralement là, un système d'échange de migrants entre Londres et Paris, le bilan n'est pas très reluisant, puisque 5 mois après son entrée en vigueur, il ne produit pas les effets escomptés selon l'aveu même des autorités britanniques. Donc, depuis les premiers transferts à la mi-septembre, un total de 305 migrants arrivés en Angleterre en small boat ont été expulsés vers la France et 367 exilés ont pu rejoindre le Royaume-Uni depuis la France de manière légale. Donc okay. Là, vous voyez que 305, 367, t'sais, c'est supposé être un pour un. C'est pas raccord.
OK.
Donc, selon le Royaume-Uni, la différence s'expliquerait par une, je cite, « complication opérationnelle » du côté français, sans plus de détails. Une affirmation qui est quand même un peu étrange, puisque selon les termes de l'accord, la France n'a aucun droit de regard là, sur les personnes expulsées vers son territoire, sauf évidemment pour des questions de sécurité. Donc, on s'explique mal là, cet écart-là.
OK.
En tout cas, on est loin de l'objectif quand même là, annoncé au moment de la signature de l'accord qui tournait autour des 50 personnes par semaine, imaginez-vous donc. Donc, on est vraiment
donc
loin.
Donc, on n'expulse pas assez puis on accueille pas assez.
Ben, écoute,
ça va pas bien. Hein? Ouais.
Les ONG avaient à l'époque énormément critiqué l'accord, entre autres pour la façon dont il déshumanise les personnes migrantes en les réduisant à des données interchangeables. Mais là, récemment, les critiques sont aussi venues des exilés eux-mêmes. Début janvier, le Guardian a révélé que 85 migrants placés en centre de rétention au Royaume-Uni en vue de leur renvoi vers la France avaient affirmé avoir subi des traitements dégradants et des préjudices psychologiques de la part des autorités britanniques. Les migrants originaires du Soudan, d'Afghanistan et d'Iran notamment accusaient le Home Office de les soumettre à une détention arbitraire, de leur refuser l'accès à un avocat et ils dénonçaient un accès limité à des soins médicaux. Des plaintes balayées du revers de la main par les autorités britanniques. Le hic, c'est que déjà en décembre dernier, 8 experts de l'ONU avaient envoyé une lettre aux autorités britanniques et françaises pour exprimer leurs inquiétudes quant à de graves violations des droits humains à l'encontre d'enfants, entre autres, et de personnes en situation de vulnérabilité, puis pour appeler les autorités donc des deux pays à y mettre fin à cet accord-là. Pour les experts, la détention de survivants de la torture peut en soi constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant. Et dans la lettre dont des extraits ont été publiés par The Guardian, on apprend qu'une Yéménite qui affirmait avoir été réduite en esclavage depuis l'âge de 3 ans s'est vue refuser la crédibilité de son témoignage par le Home Office pour la seule raison qu'elle n'avait pas immédiatement révélé son passé de victime de trafic d'êtres humains à son arrivée au Royaume-Uni, seulement plus tard qu'elle avait révélé. De plus, selon les associations, l'accord ne fonctionne pas parce que les personnes migrantes dans le nord de la France renoncent pas à rejoindre l'Angleterre. D'abord, elles connaissent pas toujours l'existence de l'accord. Ensuite, parce que certaines ont des attaches ou des proches aux États-Unis et voient donc le Royaume-Uni comme leur dernière chance, si on veut. Et finalement, parce qu'elles sont si près du but, tu sais. Par exemple, il y a un Soudanais de 18 ans rencontré dans un camp de Calais, racontait fin novembre à Info Migrant, je le cite, « Je suis venu d'Afrique, j'ai traversé le désert, la mer Méditerranée, j'ai fait trop de route pour arrêter maintenant et avoir peur d'un accord. »
Ben oui.
Pour finir, qu'en disent les chiffres? Entre le 1er janvier et le 8 février, 1200 migrants ont atteint les côtes anglaises en traversant la Manche, contre 1550 l'année dernière à la même période. Ça, c'est selon les chiffres du Home Office. C'est 22 % de moins. Le nombre a légèrement baissé, mais les causes peuvent vraiment être nombreuses. Là, on peut pas attribuer ça juste à des mesures dissuasives, tu sais, comme l'accord ou autre.
Ouais.
Parce que surtout, ça peut être surtout dû à la météo qui est vraiment très peu clémente à ce temps-ci de l'année et donc qui ralentit les tentatives de traversée.
Oui, en Europe, Simon en parlait aussi, la météo est très dure cette année. Donc,
exact, c'est ça.
Mais c'est quoi le lien entre les mauvais traitements puis l'accord en tant que tel? C'est que c'est des gens qui sont...
Qui sont parce qu'en attendant, tu sais, qu'ils soient retournés vers...
OK, ils sont comme dans un statut
France,
spécial.
Sont en centre de rétention. Là, j'imagine le temps que ça se mette en branle, puis que, tu sais, que... l'écart entre les deux chiffres, tu sais.
De quelques dizaines.
Ça parlait de, je me souviens plus le terme exact, là, mais en tout cas, de problèmes opérationnels avec la France. Fait que peut-être que des fois, la France, faut qu'ils les accueillent quand même. Fait que là, faut qu'ils donnent le OK. J'imagine qu'il doit avoir des délais.
Okay.
Donc, ils sont en centre de rétention pendant cette période-là.
Donc, plus vulnérables à des mauvais traitements.
Exact.
Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ce tour de la Manche, des deux côtés de l'Atlantique. Donc, on y va avec l'agenda. Donc, grosse fin de semaine de manif, à Montréal de samedi et dimanche. Le 7 mars, une autre manif de Solidarité sans frontières, celle-ci devant l'Hôtel de Ville à 14h, donc le 7 mars, samedi. Le titre, c'est « Rassemblement, Soraya, écoutez les voix des sans-papiers et faites de Montréal une ville sanctuaire, bâtissons une cité sans frontières
». On parle de Soraya Martinez,
oui, voilà, c'est un extrait. Soraya est la première... Pourquoi il donne pas son nom de famille, c'est vrai. Soraya est la première femme racisée issue de l'immigration à exercer les fonctions de mairesse de Montréal et nous attendons beaucoup d'elle. Au-delà des personnes affectées par le PEC, la solidarité doit aller à toutes les personnes migrantes à statut précaire et encore davantage envers les sans-papiers qui ne bénéficient d'aucune écoute ni voix vers la régularisation. Donc, samedi 14h devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Le 8 mars marque le 115e anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes. À Montréal, femmes de diverses origines organisent une manif sous le cri de ralliement, insoumise et unie contre l'austérité, le fascisme, l'impérialisme et le militarisme, plus forte que jamais. Donc, c'est le 8 mars à 13h au métro Guy, c'est-à-dire au square Béthune, Normand Béthune. Donc, le 8 mars, dimanche prochain, évidemment. On continue avec l'autre fin de semaine d'ensuite, 30e édition de la Journée internationale contre la brutalité policière. Imaginons un monde sans police ni prison. Ça se passe en deux temps. Le 14 mars, dès 12h30, au Comité social Centre-Sud sur la rue Baudry. Une journée d'ateliers, de discussion et de partage. Le 15 mars, dès 15h, devant le Bureau des enquêtes indépendantes, près du métro Longueuil, au coin des rues Charlemagne et Saint-Charles-Ouest. C'est un rassemblement en souvenir des victimes face à une institution qui tente de nous faire croire qu'une police juste est possible, selon le collectif 15 mars, qui organise ces deux jours d'activité. La 9e édition de Filministes, festival de documentaires et films sur des sujets en lien avec les féministes, c'est du 4 au 15 mars au Asgang Plaza à Montréal. Pour sa soirée de clôture, le 9 mars, le festival présente un documentaire intime et poétique de la réalisatrice irakienne Zahra Gandour, qui s'appelle « Où es-tu, Nour? » C'est une première québécoise, c'est de 2025. C'est à 19h30, donc le 9 mars. Ça va être précédé de la remise de prix et du 5 à 7 de clôture. Un petit synopsis résumé du film. Hanté par la disparition violente et soudaine de sa voisine Nour à l'âge de 10 ans, la cinéaste part sur les traces de son amie 20 ans après leur séparation forcée. Cette quête à travers la ville de Bagdad, marquée par la guerre, l'amène à rencontrer d'autres femmes qui ont été abandonnées par leur famille à l'enfance, comme Nour. Tissant des liens entre son expérience personnelle et celle des trop nombreuses disparues ou oubliées, ce film lève le voile sur le traumatisme vécu par des générations de femmes en Irak. Ça a l'air assez intéressant. Ouais. Donc, un film tout récent, arabe sous-titré français. Et il me reste deux événements. La Poésie partout présente la 3e édition de Paroles en danger. Cet événement réunit 3 duos de poètes, une de Québec et une de Montréal, qui rendent vivante la voix de 3 écrivaines exilées ou en danger dans leur pays. Donc, on parle de Amanda Ekanis des Philippines, Olivia Elas de la Palestine et Darren Tatour de la Palestine aussi, avec différentes poètes qui vont lire donc de leurs œuvres. 2 représentations à Montréal le 19 mars à la Librairie et à Québec le 28 mars à la Maison de la Littérature. Pour information, lapoésiepartout.com. Et je termine avec UPOP Montréal, la nouvelle session hiver-printemps 2026. Les 4 thématiques sont « Co-construire la neuroscience bien au-delà du cerveau », politique de la démission, s'engager par le refus, se réapproprier la relation à la musique et le club de lecture de notre cerveau à tous les niveaux, du Big Bang à la conscience sociale. On connaît l'auteur, Bruno Dubuc. Et sinon, un événement spécial, conférence d'Alain Deneau. Ça se passe le 16 mars à la Librairie. Les figures du complotisme, 2 points, une galerie de personnages conceptuels. Pour toute info, upopmontréal.com.
Il y a Simon aussi qui voulait peut-être faire une suggestion de lecture.
Oui, justement lui passer la parole.
Oui, c'est un article que j'ai lu récemment sur laconverse.com, dont je vous recommande effectivement la lecture. « Mémoire noire, jeunesse montréalaise à la maison d'Haïti. Raconter l'esclavage pour se raconter soi ». Donc, il s'agit d'un compte-rendu assez exhaustif d'une soirée de discussion qui a eu lieu à la maison d'Haïti dans le quartier Saint-Michel à Montréal, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, autour de la question suivante. Au-delà des commémorations de l'esclavage et du racisme, une question persiste: comment les parents, les familles peuvent-elles trouver les mots pour en parler aux enfants sans les écraser sous le poids de l'histoire? Donc, c'est intéressant de lire les points de vue des différentes intervenantes, les trucs qu'elles ont développés pour évoquer les sujets qui sont assez difficiles, par exemple avec les enfants, évidemment, en déconstruisant les récits, en intégrant l'art, la musique ou l'humour, sans pour autant édulcorer le propos. Donc, vraiment une belle lecture du journaliste Nouri Nesrouche, que je recommande vivement, Mémoire noire, jeunesse montréalaise.
La Converse, très bon média indépendant.
Effectivement.
Donc, c'est la fin de notre balado émission de radio Les Apatrides Anonymes. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie-Ève et Simon pour leur excellent contenu et leur excellent travail à la console.
Oui, on est bon.
On est très, très bon.
Surtout vous. Ben, merci, Mathieu.
Fait plaisir, fait plaisir.
Merci pour tes ponts. Tes ponts
mes enchaînements.
Informatifs.
Mes enchaînements,
oui.
On fait des petits liens, hein, quand même. Hein? Donc, allez-nous suivre sur notre sur la page de notre émission sur shop.ca, notre page FB aussi. On a un courriel à patriotesanonymes@resist.ca. Sinon, ben, il y a plein d'émissions à réécouter, c'est ça, sur le site de Choc ou sur notre propre site à nous, apatridesanonymes.info. Et évidemment, on va être là dans deux semaines, le 19 mars, avec un collectif du même nom, Marie-Ève.
Ben oui, le collectif 19 mars.
C'est quelque chose, hein?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Oh, c'est, ben, en fait, c'est des ex-employés de la revue Relations et du Centre Justice et Froid.
À Montréal.
Et Froid, pardon. Qui, oui, à Montréal, qui se sont fait, jetés comme des vieilles chaussettes par les vieux jésuites oui. Réac, disons, qui n'étaient pas trop contents de la tangente de gauche.
Woke, hein,
ouais, moi, ça, je pense ouais. peut-être. Ouais. Donc, ben là, ils ont mis sur pied une initiative pour au moins là, poursuivre les réflexions, organiser des événements, tout ça. Puis comme ben le 19 mars, s'appelle comme ça parce que c'est le 19 mars que leur aventure a pris fin.
Qui ont été congédiés, ouais.
Exact. Fait que on va les recevoir en entrevue pour voir là, ce qu'ils préparent, là, sur quoi ils travaillent, puis ce sur quoi ils ont travaillé aussi.
Comme projet, puis comme initiative. Exact. Donc, il y aura au moins un invité le
ouais,
19 mars. Oui,
Mouloud Idir.
Mouloud Idir. Donc, ouais. Simon sera absent malheureusement dans deux semaines. Il prend un petit congé.
Je vous écouterai. J'écouterai cette entrevue. Ça a l'air très intéressant.
Ben oui, tout à fait. Donc, ben on va se quitter en musique, évidemment, avec une troisième pièce. C'est Kate Wyatt, la pièce Embers, de son deuxième album Murmuration. C'est une pianiste et compositrice jazz montréalaise. Qui a pas mal le vent dans les voiles ces temps-ci. Elle est accompagnée sur l'album de Adrian Villady à la basse et de Louis-Vincent Amel aux percussions. Donc, on va se terminer, on va se laisser là-dessus et on va souhaiter une belle soirée pour les gens qui nous écoutent en direct et une bonne écoute pour les gens qui nous écoutent de partout.
Bonne écoute de partout.
Oui, merci. Bonne soirée tout le monde.